Europe 1.
Europe 1.
16h-18h. L'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipée sauvage, la grande compète des journalistes de la rédac qui chaque après-midi s'affrontent au service de votre culture G. Des journalistes qui en l'espace de 176 émissions ont eu le temps de comprendre le principe des off. Certains désormais n'osent plus rien dire hors antenne de peur que leurs propos soient détournés ou sortis de leur contexte le lendemain. Même notre expert écho, le candide Axel de Tarlé, commence à se méfier, mais il baisse la garde encore trop souvent durant la coupure pub. Hier je n'ai eu qu'à siffloter... Pourtant je siffle mal, oui. Il est parti tout seul comme un grand.
Elle danse au bal masqué. Elle ne peut pas.
Oh putain, il me fait chanter ce con.
Eh oui, en même temps, un éditorialiste économique qui chante la compagnie créole, n'est-ce pas là le plus beau symbole, Eva, de l'éclectisme de notre émission.
C'est vrai.
Comment ça va, Eva? Vous chantez peu, vous, hors antenne, vous méfiez.
Ouais, bon, enfin, avec les conneries que je dis, on est tranquille quand même. Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Tout à l'heure, vous nous direz, Eva, ce qu'on regarde ce soir sur
Exactement.
La télé, sur les écrans, puisque nous sommes
spécial
modernes.
Spécial musique aujourd'hui, vous allez voir.
Spécial musique, ouais. Mais d'abord, chaque jour, vous le savez, Eva, on prend des nouvelles d'une personnalité qu'on aime. Aujourd'hui, on l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. C'est un comédien exceptionnel qui peut tout jouer. La preuve, la dernière fois qu'il était invité de l'équipe Sauvage, une journaliste de Télérama était venue faire un papier sur l'émission. Je lui avais demandé de nous la jouer Télérama, genre un télo classe. Il s'était tout de suite adapté.
Patience et longueur de temps font plus que force ni courage. Je dis ça pour ceux qui sont en compétition. Là.
Bonjour voilà. Guillaume de Tonquédec.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour Eva.
Bonjour Guillaume.
On est ravis d'être en ligne avec vous, Guillaume de Tonquédec, cet après-midi. Alors vous allez nous dire si vous reprenez le chemin des plateaux et à quel rythme. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avant le confinement, l'année dernière, vous avez tout donné en termes de tournage. Résultat, aujourd'hui, on vous retrouve non pas dans un, non pas dans deux, non pas dans trois, mais dans quatre films en VOD.
Oh oui, c'est un catastrophe.
Les quatre à la suite, l'esprit de famille, Place des Victoires, Let's Dance et Roxane. Ma première question est donc simple, Guillaume de Tonquédec. Est-ce que c'est pas trop dur pour un comédien quand le téléphone ne sonne pas?
Ah mais il a continué à sonner. Moi j'avais prévu le Covid-19. Moi, je suis présent quand même partout en VOD. Donc j'ai beaucoup tourné exprès.
Quel timing parfait.
Non, c'est un heureux hasard. Mais enfin j'aurais préféré évidemment tourner comme et jouer comme tous mes copains évidemment quoi.
Et est-ce que vous avez été impacté? On a reçu des acteurs dont le film a été annulé, la sortie reportée. D'autres, le film est sorti juste avant. Comme Elise Moon, il a pu faire plein d'entrées. Oui. Vous étiez dans quelle catégorie? Il y avait des films qui devaient sortir là ou c'était finalement une période creuse pour vous entre guillemets pour les sorties de films?
L'esprit de famille était sorti peu de temps auparavant, il a quasiment fini sa carrière en salle et donc ils ont accéléré sa sortie en VOD pour que les gens puissent en profiter pendant le confinement. Sinon j'avais pas de film sorti, enfin prévu là en sortie. Par contre je devais jouer au théâtre, donc répéter à partir du mois de mai Le Mariage de Figaro pour le théâtre Antoine. Ça a été annulé et reporté, on espère dans un an. Mais est-ce que l'ensemble des théâtres auront les reins suffisamment solides pour pouvoir jouer encore des pièces à beaucoup de personnages, même dans un an, c'est une vraie interrogation, une vraie angoisse pour tout le monde.
Sinon, vous jouerez tous les rôles vous-même.
Oui, vous-même.
Vous pouvez le faire.
Hein,
comme il faisait dans la compagnie de Shakespeare à l'époque, je crois. Hein, donc,
oui,
voilà.
C'est vrai. Ouais.
Alors, Guillaume de Tonquédec, on va parler de tous ces films disponibles en VOD. Vous allez nous raconter un peu votre confinement. Mais d'abord, c'est le rituel. Je vous présente nos deux premiers journalistes en compétition pour le titre de chroniqueur du jour. Le premier a longuement hésité. Est-ce que je me lance dans le journalisme ou plutôt dans le music-hall? Un soir, après une caipi, il a tiré à pile ou face, s'est tombé face. Journalisme. Une perte pour la comédie, comme on a pu le constater durant le confinement, avec ses reportages mémorables à l'instar de son enquête sur le fitness de balcon.
2, 3, 4. Descends plus tes fesses, Sonia, voilà. C'est bien, Séverine. Allez, lâche pas Liliane.
Bonjour Arthur Hennebaché.
Bonjour tout le monde.
Oh là là,
j'espère que Liliane va bien, qu'elle continue le fitness.
Certainement. Alors, vous auriez pu être en quelque sorte le nouveau Benoît Poulvorde. Vous avez hélas opté pour le journalisme sérieux, enfin sérieux.
Hélas.
Faut le dire vite. Vous êtes notre correspondant dans le Grand Est. C'est pourquoi aujourd'hui, avec vous, on prend la direction des Vosges.
Ouais, l'autre jour, chez Nathalie Lavie, vous savez, dans le 18-20, je suis passé juste après un reportage, je sais plus où, dans le Sud-Ouest. Et Nathalie de s'extasier, ah que c'est beau cet accent chantant du Sud-Ouest. Je vais vous prouver que l'alsacien est une langue chantante et pas qu'un peu.
Vous avez du boulot quand même.
Ouais.
Face à vous, Arthur, elle nous dévoile chaque vendredi les secrets parfois fascinants du monde animal. Aujourd'hui, à l'occasion de l'Ascension, zoom sur ces animaux immortels, ou presque. Des êtres qui sont comme insensibles à l'usure du temps. On peut évidemment citer Eva Rock.
Vous voulez un petit apéro?
Mais il y en a d'autres, des résistants. Bonjour Farah Kasri.
Bonjour tout le monde.
Vous êtes vétérinaire et aujourd'hui, vous allez donc nous parler des animaux immortels. C'est pas un peu abusif comme terme ?
Non, puisqu'ils sont capables de se régénérer et d'avoir vraiment une vie beaucoup plus longue que la nôtre. C'est vrai que la promesse de la vie éternelle fait rêver l'humanité depuis des siècles. Et bien, le secret ne serait pas dans les saintes écritures, mais plutôt chez certaines espèces animales.
Ah là là, vive là, oui.
On a hâte de connaître les secrets des animaux. Surtout Eva, visiblement, oui. Vous cherchez la crème de jouvence, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Pas de... Ouais. Oui, non, allez-y. Je cherchais un truc, mais ça ne vient pas.
Vous n'avez pas trouvé, vous m'avez fait même couiller.
Oui, c'est vrai.
C'est le problème, ouais. C'est un métier. Merci Farah, le programme est donné, l'équipée sauvage peut démarrer.
Europe 1, l'équipée sauvage.
Guillaume de Tonquédec est partout sur vos écrans. 4 films dans lesquels il joue sont disponibles en VOD. L'Esprit de Famille, Place des Victoires, Let's Dance et Roxane. Ma première question est simple, lequel vous préférez ?
Oh, c'est dur, c'est horrible. Non,
alors, je reformule, dans lequel vous préférez ? C'est-à-dire où vous vous trouvez vraiment bon, excellent.
C'est encore plus dur, ça.
Soyez un peu immodeste.
Vous trouvez excellent. Ah oui, je parlais de moi à la troisième personne bientôt. Non, c'est une question d'écriture. En fait, très honnêtement, à son langue de bois, j'adore ces quatre films. Parce que ce sont des personnages très, très, très différents. Et peut-être que le dernier, L'Esprit de Famille, où je joue un homme qui perd son père et qui doit faire son deuil, qui est une façon très tendre et avec beaucoup d'humour et d'émotion de traiter ce sujet m'a particulièrement bouleversé. Oui, c'est vrai. Pour être honnête, j'aime beaucoup ce film. Voilà.
Et moi, j'ai envie que vous nous parliez un peu de Roxane, le film avec la poule. Parce que là, je comprends pas comment vous avez réussi à tourner un film avec une poule dans tous les plans. Ça devait être impossible de jouer la comédie avec une poule. Comment elle pouvait se contrôler ?
Ben, déjà, le scénario m'a emballé parce que c'est plein de poésie. Ça parle d'un agriculteur et Dieu sait si le sujet est devenu à la mode depuis, oui. Qui risque de perdre son entreprise parce que c'est un petit éleveur de poules pondeuses et il va décider de s'emparer des réseaux sociaux parce qu'il a un petit talent pour le théâtre pour essayer de faire des vidéos un peu foireuses pour être très honnête avec ses poules où il les met en scène pour essayer de toucher les gens et qu'ils viennent acheter ces œufs-là et pas les œufs de la grande distribution. Donc le personnage est très poétique,
très touchant.
Il a toujours caché ce talent parce que ça lui est tombé dessus quand il avait 16 ans, l'amour de la littérature, mais comme ça n'est pas, il n'a pas été à l'école très longtemps, il avait honte de cette chose comme ça caché en lui. Et il m'a beaucoup touché parce que moi-même, j'ai eu beaucoup de difficultés à apprendre à lire et à écrire, curieusement. Et maintenant, je travaille avec les mots tous les jours. Donc ce personnage m'a beaucoup ému. Et puis évidemment, le fait de travailler avec des vraies poules, là, ça, c'était extraordinaire. Quoi. Ce sont de très bonnes comédiennes. Elles ont des caprices aussi. Et c'était très, très, très amusant à faire. Quoi. Il y avait quand même 16 000 poules figurantes. C'est le plus gros budget du cinéma français en termes de figuration. Et puis Roxane, la poule vedette, quoi, qui est extraordinaire. Et pour la petite histoire, je l'ai adoptée. Elle est dans mon jardin à l'heure où je vous parle. Oui, c'est vrai.
Elle fait des œufs ou
elle pond des œufs.
D'accord. Et vous comptez la laisser vivre longtemps ?
Ah bah le plus longtemps possible. Elle ne pond pas toute leur vie, mais je la garderai.
Eva ?
Guillaume de Tonquédec, est-ce que vous avez déjà fait un film dont aujourd'hui vous diriez que vous n'avez pas forcément aimé ou vous n'avez pas aimé le personnage ?
Mais qu'est-ce que vous embêtez, mon Guillaume, là ?
Mais non,
il est toujours formidable.
Ouais. Non, mais c'est une bonne question parce que franchement, j'ai une chance folle. C'est-à-dire que je viens du théâtre, j'ai toujours beaucoup travaillé au théâtre et quand la popularité m'est tombée dessus grâce à Fais pas ci, fais pas ça et Le Prénom, j'ai pu avoir le choix enfin et j'ai choisi à peu près que ce que je voulais. Quoi. On m'a beaucoup dit non et maintenant c'est moi qui dis non. Donc c'est quand même une chance de pouvoir choisir en fait ce que je veux faire. Et le fait d'être allé partout, au théâtre, au cinéma, à la télévision, à la radio aussi, faire des pièces radiophoniques, même faire du doublage, j'ai même fait de la publicité, j'ai dit oui à tout par enthousiasme et par envie de travailler. Quoi. Donc j'assume tous mes choix.
Malgré le succès qui est le vôtre, qui est phénoménal aujourd'hui, vous restez quelqu'un qui doute, c'est peut-être une force hein, dans ce métier pour rester un bon acteur. Sur Roxane, vous dites que vous avez hésité à accepter le rôle. Je tenais à être totalement crédible. Ma hantise, c'était d'être perçu comme Tonquédec déguisé en paysan.
Oui, parce que le sujet m'avait beaucoup touché. Puis j'ai rencontré des agriculteurs qui m'ont parlé de leurs difficultés. Là, tout d'un coup, ça devient réel et vous êtes un peu leur porte-parole. Donc, je me devais de les respecter, quoi. Donc, de ne pas me tromper. Puis je voulais pas qu'on voit un acteur parisien déguisé en paysan breton, quoi. Ça aurait été une insulte pour eux. J'en avais pas du tout envie. Et puis, en plus, je pense que le spectateur, il a un sixième sens. Si vous vous moquez de lui, si vous en faites trop, si vous êtes caricatural, il décroche. Vous perdez l'histoire, alors que si vous réussissez à les toucher, vous pouvez les emmener où vous voulez. Quoi. C'est assez extraordinaire. Quoi. Donc c'est vraiment le premier travail de l'acteur, c'est d'être au moins juste. Après, il peut devenir dingue.
Ça vous aime aussi, et nous aussi. Il est partout, et pourtant, on ne s'en lasse pas. Guillaume de Tonquédec, reste avec nous.
Europe 1.
On dit souvent, c'est en tout cas les témoignages que je reçois, que notre émission est une véritable cure de jouvence. Et c'est vrai que, comme dirait Nice Mbida, notre expert high-tech, l'équipée sauvage...
Ça swing plus que Sardou, hein.
Eh oui, on a su rester jeune, mais d'après Farah Kesri, notre veto, certains réussissent à rester jeunes encore mieux que nous, des animaux dont le métabolisme unique les rend presque immortels. Comment est-ce possible? Peut-on en tirer des enseignements pour nous? La réponse dans un instant.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. L'équipée sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Notre première concurrente du jour frétille dans les starting blocks, toujours en duplex de chez elle. Notre veto Farah Kesri n'en peut plus. Elle a besoin de contact humain. Comme elle le disait hier à Alain Sirou.
Le virtuel ne suffit plus.
Ah oui, on en est tous là, Farah. En attendant votre retour en studio aujourd'hui, clin d'œil à la fête de l'Ascension. Vous nous parlez de ces animaux étonnants qui sont quasiment immortel. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ben en fait, vous savez que nous, si on peut pas être immortel, c'est surtout parce que nos organes, eh bien, sont programmés pour mourir. Il y a une sorte de date limite de fonctionnement. Et si on voulait pouvoir vivre éternellement, eh bien, il faudrait soit pouvoir remplacer tous nos organes qui vieillissent, soit avoir le pouvoir de les régénérer. Et justement, certaines espèces sont capables de régénérer ces organes qui sont vieillissants. Et si jamais on prenait un exemple, celui de l'hydre. Il faut savoir que l'hydre, c'est une toute petite espèce marine qui existe depuis des millions d'années. Ce n'est qu'un amas de cellules, hein. C'est vraiment pas grand-chose. Ça ressemble à peine à une petite tige avec des rameaux. Eh bien, l'hydre qui est pourtant en bas de l'échelle de l'évolution, si on la coupe en deux, eh bien, chaque partie est capable de recréer la partie manquante et donner ainsi deux hydres au lieu d'une seule. Vous voyez, c'est capable de se régénérer entièrement.
C'est fascinant. Hein.
J'imagine, oui. On vous coupe en deux, Mathieu, et il y a deux Mathieu Noël.
Deux fois plus de conneries. Sang, imagine, ouais. on n'est pas gagnant. Quel est son secret à l'hydre?
Alors, en fait, le secret réside dans les cellules. Alors, si on compare à l'être humain, vous savez que l'origine biologique d'un humain, c'est tout simplement la fusion de deux cellules. Donc, c'est un ovule qui est fécondé par un spermatozoïde. Ils forment un œuf dont les cellules vont se diviser des milliers de fois. Eh bien, ces toutes premières cellules qu'on appelle les cellules embryonnaires, eh bien, elles sont capables de donner n'importe quel type de cellules. C'est-à-dire des cellules du cœur, du poumon, du foie, du muscle, de la peau. Bref, on les appelle les cellules souches parce qu'elles ont ce pouvoir de donner n'importe quelle autre cellule. Eh bien, ce sont elles qui ont une forme d'immortalité. Par cette possibilité de donner toutes les cellules du corps. Eh bien, nous, les humains, au fur et à mesure de notre développement, nous perdons notre réserve de cellules souches embryonnaires.
Ah merde.
Alors que chez l'hydre, eh bien, elle n'épuise jamais ses cellules souches, elle en a toujours. Du coup, elle peut tout de suite régénérer les parties qui sont manquantes et elle peut les utiliser tout au long de sa vie. Et on a estimé sa durée de vie en laboratoire à 1400 ans.
Alors, nous, d'après ce que je sais, enfin la galerie, d'après ce que vous m'avez écrit, on peut régénérer une partie de notre foie. Ce qui est d'ailleurs une bonne nouvelle pour Eva, parce que c'est quand même l'organe qui est le plus touché par la consommation de Spritz. Oui. C'est le seul organe, il faudrait qu'on puisse faire la même chose pour tous nos autres organes.
Ça serait génial.
Oui, absolument. Concernant le foie, on peut le régénérer jusqu'à 60%. Si on garde juste 30%, et ben on peut régénérer ce qui reste. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Mais c'est vrai qu'on n'a pas ce pouvoir pour les autres organes. Et c'est pour cette raison que les chercheurs sur la longévité s'intéressent à une autre espèce qu'on appelle la salamandre. Alors, la bonne nouvelle de la salamandre, c'est que c'est un vertébré, c'est-à-dire que son organisme est plus proche d'une autre que celui de l'hydre. Et si on coupe une patte à ce lézard, eh bien, cette patte va totalement se régénérer au bout de quelques semaines. Et c'est une régénération beaucoup plus complexe que pour l'hydre, parce que pour refaire une patte, il faut régénérer des os, des nerfs, des vaisseaux, des muscles, sans oublier la peau. Donc c'est vraiment compliqué. Et pourtant, la salamandre n'a pas de cellules souches comme l'hydre, hein. C'est comme nous, elle en a plus, elle en a très très peu.
Alors,
en
comment
fait.
Elle fait?
Et bien en fait, elle a cette capacité à inverser l'horloge de ses cellules. Les cellules qui sont déjà spécialisées, elle fait en sorte de remonter le cours du temps, elles inversent le mécanisme pour redevenir des cellules souches. C'est un peu la fontaine de jouvence à volonté pour cette salamandre. Alors, c'est vraiment le secret qu'essayent de percer les généticiens.
Alors, on ne mange pas la salamandre. Hein, parce
non,
que
ça
sinon,
ne servira à rien.
Voilà, non, pas du salamandre, c'est pas bon.
Ouais, voilà. En revanche, Farah, ce que vous vous nous racontez est quand même fascinant. Ça veut dire que peut-être que parmi les progrès possibles de la médecine, si on arrive à comprendre, aujourd'hui, visiblement, on l'a compris, puisque vous nous l'expliquez, le processus qui permet à la salamandre de se régénérer. Donc on pourrait peut-être le maîtriser un jour et peut-être même l'appliquer à l'homme. Est-ce que ça semble possible ou c'est vraiment... Et aujourd'hui, c'est de la science-fiction, mais pourquoi pas l'imaginer ?
Ah si, si, d'un point de vue théorique, c'est tout à fait possible. On est en train de décoder les gènes qui sont justement à l'origine de cette inversion du temps. Et si on arrive à maîtriser la régulation, l'équilibre entre les gènes qui déclenchent ce qu'on appelle l'apoptose, la mort cellulaire programmée, et ceux qui vont au contraire déclencher la multiplication des cellules, eh bien là, oui, c'est gagné.
Eh bien, merci Farah Kessri. La prochaine fois que vous reviendrez, qui sait ? Eva aura peut-être 22 ans.
Mais oui.
C'est ça qui est magique avec vous.
Ouais.
Merci.
On n'a pas dit que c'était ça, hein. On a dit que c'est l'immortalité. C'est-à-dire que vous allez devoir me supporter plus longtemps, mais avec ma même gueule, en fait. C'est ça le problème.
Mais non, vous allez en plus rajeunir. Ouais. Vous n'avez rien compris. Vous allez réécouter la chronique. C'est un des acteurs préférés des Français. Guillaume de Tonquédec est à l'affiche de pas moins de 4 films qui sortent en VOD. Sera-t-il aussi ému de me rencontrer que François Berléand, qui lui donne la réplique dans L'Esprit de Famille ? Être l'invité de L'Équipée Sauvage, ça, j'imagine que c'est un tournant dans votre carrière.
Et dans la vôtre aussi.
A tout de suite avec Guillaume de Tonquédec.
Europe 1, 16h, 18h, L'Équipée Sauvage. Sur Europe 1, L'Équipée Sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez L'Équipée Sauvage, 2 heures pour comprendre l'actu sans jamais oublier d'en rire et sans oublier aussi de prendre des nouvelles des stars. Elles ne peuvent pas encore revenir en studio avec nous, mais chaque après-midi, on leur passe un petit coup de fil. Aujourd'hui, un acteur qui tutoie les sommets depuis quelques années maintenant, artistiquement et, disons-le, financièrement. D'ailleurs, il ne s'en cache pas. Hier, il a fait la réouverture de la Maison du Caviar à Paris. Quand le vendeur lui a demandé ce qu'il voulait, il a dit
« La totale, la totale
». Mais c'est admirable d'aider les petits commerçants. Guillaume de Tonquédec passe un moment avec nous cet après-midi pour fêter son don d'ubiquité. Il est dans 4 films en VOD en ce moment. On a parlé de Roxane. J'aimerais qu'on parle de L'Esprit de Famille un petit peu avec François Berléand. Là aussi, comme pour Roxane, vous aviez, paraît-il, refusé de faire le film au départ. Vous décidément, mais vous doutez toujours de vous.
Alors Roxane, je n'avais pas refusé, je voulais être à la hauteur, disons, mais L'Esprit de Famille, j'avais refusé parce que Éric Bénard, qui a écrit et réalisé le film, était dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il venait de perdre son papa quand il m'a proposé le scénario, et il m'a dit « je veux faire un film qui soit sur un fil entre l'émotion et la comédie ». Et il m'a donné son scénario le jour même, et je l'ai lu, et j'ai trouvé qu'il était totalement dans l'émotion, mais pas du tout dans la comédie. Je voyais pas le contrepoint de comédie. Et donc, je lui ai dit, écoutez, je crois que j'ai pas compris votre scénario. La rencontre avec vous m'a beaucoup touché. Je lui ai donné un deuxième rendez-vous et je lui ai dit, voilà pourquoi je vais vous dire non, quoi. Ce qui était assez bizarre, hein. Très honnêtement, c'est la deuxième fois qu'on voyait dans notre vie avec ce monsieur. Je suis arrivé avec le scénario annoté, page par page, et je lui ai dit, voilà pourquoi à tel endroit je trouve que peut-être le personnage pourrait faire ci, faire ça, etc. Et je lui ai dit, je pense que vous allez m'envoyer le scénario à la figure et qu'on se reparlera jamais, mais je vous dois au moins d'être honnête avec vous. Tellement la rencontre a été forte pour moi. Je lui ai même donné des noms d'autres comédiens qui pourraient jouer le rôle. Et puis finalement, un an après,
vous êtes unique.
Ayant retravaillé, il me l'a reproposé. Et là, il y avait les deux choses. En fait, je pense que Eric manquait malheureusement de distance par rapport à l'événement tragique qui était la perte de son père pour pouvoir commencer à faire sourire sur ce sujet-là. Et un an après, il était prêt. Je lui ai dit oui, bien sûr, allons-y. Ce qui fait que quand on s'est retrouvés sur le plateau, lui et moi et tous les autres comédiens, on savait exactement pourquoi on était là et ce qu'on voulait raconter. Et le tournage a été d'une intensité émotionnelle, d'un échange humain extraordinaire qui, je pense, se retrouve à l'écran.
Eva ?
Guillaume de Tonquédec, en vous écoutant raconter cette histoire-là, je me pose une question. Est-ce que vous aimeriez enseigner la comédie et l'art dramatique ?
J'adorerais. J'avais fait une petite expérience au cours Florent. On m'avait proposé éventuellement de devenir prof en première année, pour plein de raisons, ça n'a pas pu se faire, mais c'est quelque chose qui me passionne. Oui, la pédagogie, l'enseignement, oui, c'est très important. Surtout les premières années, parce que il faut respecter l'acteur ou l'actrice qu'on a en face de soi et l'aider à devenir lui-même, ce qui peut paraître être très simple, en fait, non, je crois, on met peut-être toute une vie à devenir nous-mêmes, quoi. Voilà, on est parti dans la philosophie.
Wow, il devient philosophe pour nous.
Et l'écriture, Guillaume de Tonquédec ?
L'écriture, le confinement m'a permis de mettre enfin face à mes responsabilités. Je titille souvent l'idée de vouloir écrire, donc là, je m'y mets un petit peu. Pourquoi pas écrire un film ou une pièce, ou mettre en scène une pièce ? Disons que je serais sans doute un bon script docteur. C'est facile d'intervenir sur quelque chose qui est déjà écrit, déjà structuré. Mais de se lancer soi-même, c'est beaucoup plus difficile. Donc là, je suis en plein dans cette période-là passionnante. Mais pourquoi pas, peut-être un jour, vous me recevrez comme metteur en scène. Ce sera peut-être la dernière fois,
mais
peut-être un jour, je ferai un film.
Un mot, Guillaume, des Molières. Vous êtes nommé aux Molières, qui vont être un peu particuliers cette année, parce qu'il n'y aura pas de public. Mais vous allez vous y rendre. Vous savez déjà, vous avez déjà préparé votre discours, puisqu'évidemment, vous allez l'emporter.
Il y a quand même Nils Arestrup, oui. Sébastien Castro et Édouard Baird en compétition avec moi. On est quatre représentants les meilleurs acteurs du théâtre privé. Donc, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Si jamais ça se passe comme ça, on se rappelle le lendemain, hein, Mathieu. Je serais ravi. Mais en fait, ce qui est. Comment dire, cette édition des Molières, elle devait avoir lieu le 11 mai, donc le jour du déconfinement. Elle a bien sûr été annulée. Elle a été reportée au 23 juin. Pour tout vous dire très honnêtement, je n'ai même pas voté pour le premier tour, parce que j'étais totalement démobilisé en me disant pourquoi, à quoi bon, est-ce qu'on a. Totalement perdu, vraiment, en plein confinement. Et finalement, je trouve que c'est une excellente idée de maintenir ces Molières pour parler du théâtre, tout simplement, pour défendre nos métiers avec tout notre cœur, et puis de donner envie, de préparer l'après-Covid et de donner envie aux gens de retourner en salle dès que ce sera possible. Parce que nous, on vit pour le public, on travaille pour le public, et sans lui, on n'est rien. Donc s'ils ne peuvent pas venir, l'équation est résolue. On ne peut plus travailler.
Guillaume, vous dites préparer l'après-Covid. Est-ce que vous pensez, vous y faisiez référence tout à l'heure sur une pièce où il y avait beaucoup de comédiens, est-ce que vous pensez que la manière d'écrire les pièces de théâtre, et surtout le choix des pièces de théâtre, va être changé par cette période du Covid, et qu'effectivement, il y aura des pièces peut-être avec moins de comédiens, moins de comédiens qui se parlent proches à se postillonner dessus et qui s'embrassent, par exemple. Est-ce que vous pensez que les choses vont changer? Qu'est-ce qui se dit dans le métier?
Tant qu'on n'a pas de vaccin ou tant qu'on n'a pas de certitude sur cette saloperie, les choses vont forcément changer. Là, je dois reprendre un tournage, peut-être, on espère, fin juin. Mais comment faire? On peut répéter, masquer. Les techniciens peuvent rester masqués pendant les prises au cinéma. Mais une fois qu'on enlève le masque, c'est un peu la roulette russe, les acteurs, pour jouer. Est-ce que je l'ai? J'en suis pas sûr. Est-ce que tu l'as? J'en suis pas sûr. Bon, on y va, on verra bien, quoi. Donc, vous voyez, ça va être vachement réjouissant, quoi, les prochains tournages. Non, ce qu'on espère surtout, c'est que ça va disparaître. Par contre, si on peut tirer quelques enseignements ou alors écrire des histoires, il y a quelques scénarios, quelques histoires vraies qui pourraient nous inspirer sur cette période. Je pense qu'il y a une belle matière pour les scénaristes.
C'est sûr. Est-ce que vous, c'est ce qui vous inspire en ce moment quand vous dites que vous vous mettez à l'écriture?
Non, c'est d'autres sujets qui me trottent dans la tête depuis un bon moment. Je pars de faits divers, en fait, qui m'ont touché, pour pas dire bouleversé, du point de vue humain. Et Billy Wilder était un ancien journaliste. Donc vous voyez, tout est possible pour vous, Mathieu et Eva. Parce qu'il partait toujours de faits divers réel pour après écrire des histoires. Donc par exemple, La Garçonnière, c'était un fait divers réel, et il en a tiré une fiction auparavant, mais il voulait qu'il y ait un départ de vérité pour asseoir son écriture. Et en fait, pour le moment, très modestement, je pense que c'est une bonne piste de partir, en tout cas, d'un quelque chose de juste pour écrire. Donc je suis en plein là-dedans.
Le petit Grégory part. Guillaume de Tonquédec, c'est le film événement qu'on attend pour 2021. Guillaume, un mot pour finir, plus personnel, sur ce confinement. Comment vous l'avez vécu? On sait que vous avez plusieurs enfants. Est-ce que là, pour vous qui êtes toujours en tournage, finalement, votre famille dit merci au Covid, et ils vous ont vu pendant deux mois, 24 heures sur 24, c'était très nouveau pour eux?
C'était nouveau pour nous cinq, en fait, parce que mes enfants ils sont grands. Il y en a qui étaient partis en province pour leurs études, pour des stages, même à l'étranger. Et là, le hasard a fait que tout le monde était à la maison. Donc, on a repartagé une période qu'on n'avait pas vécue depuis qu'ils étaient tout petits. Et donc, c'était un moment d'échange, d'engueulade aussi, tout à fait salvatrice, parce qu'il n'y a pas eu que des moments calmes, un peu comme dans toutes les familles, je crois, quoi. En tout cas, s'il y a bien un bénéfice, c'est celui-là, c'est d'avoir pu partager quelque chose qui restera dans nos vies à tous, quoi, c'est sûr.
Pardon, j'ai une question idiote qui me vient, mais je risque pas l'envie de la poser. Mais quand on est soi-même Guillaume de Tonquédec, qu'on est confiné en famille comme ça, il y a forcément des scènes un peu cocasses qui doivent se passer. Par moment, vous vous dites pas, là j'ai l'impression d'être dans Fais pas ci, fais pas ça. Vous dites pas, tiens, là on aurait pu tourner.
Non, mais c'est vrai. Et puis ma femme, très souvent, mes enfants l'appellent Fabienne, qui est le personnage joué par Valérie Bonneton dans la série. Donc, non, mais vous avez raison, évidemment, là, souvent la réalité rejoint la fiction ou la fiction rejoint la réalité. Ouais, ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, on devrait, j'espère, tourner un épisode.
Oui, un unitaire.
Le dernier épisode de Fais pas ça cet automne, si on peut, si on y arrive.
C'est toujours dans les tuyaux, en tout cas.
C'est toujours d'actualité parce qu'on tournerait en octobre. Donc là, j'espère que les choses iront mieux. Quoi.
On l'espère. L'esprit de famille, Place des Victoires, Let's Dance et Roxane. Guillaume de Tonquédec est partout en VOD. Il était sur Europe 1 cet après-midi. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir passé un petit moment avec nous.
Bah, merci à vous et désolé pour ceux qui ne m'aiment pas encore.
Les pauvres. On n'a pas beaucoup de messages dans
oui,
ce sens-là, hein, Guillaume.
Jamais,
hein.
On les cherche.
Non, j'en connais deux, mais ils sont morts.
On les embrasse là-haut. Europe 1. Comment une vidéo soporifique mettant en scène un couple de cigognes a-t-elle pu faire plus de vues sur YouTube que le dernier clip de Beyoncé ? C'est ce qu'on appelle la Magic Touch El Bache. Notre correspondant dans l'Est a en effet l'art du teaser. Il sait attiser notre curiosité avec trois fois rien, exactement l'inverse d'Axel de Tarlé, notre expert éco, qui a l'art de m'envoyer les gens directement sur RTL.
Toute la filière du meuble va mal, bah, il faudra écouter ma chronique, elle s'annonce passionnante.
Alors, si je vous dis comme ça, restez, on va partir dans les Vosges, bon, Eva, ok. Sauf oui. qu'avec Arthur Hanbaché, ça va être beaucoup plus sexy, comme vous allez le découvrir juste après Célassiou, You, sur Europe 1. C'était Célassiou sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Quand il entre en piste, le silence se fait. Les autres journalistes baissent la tête, ils savent ce qu'il leur reste à faire.
Nous allons serrer les fesses.
Arthur Hanbaché est notre deuxième concurrent cet après-midi. Après la vie des cigognes et le fitness de balcon, il arrive avec un nouveau sujet. Quand l'épidémie de coronavirus oblige les lieux les plus ancestraux à se moderniser. Arthur, on monte avec vous dans la scénique Europe 1, 110 chevaux, direction assistée, vitre électrique. Et on monte là-haut, sur les crêtes vosgiennes, dans une ferme auberge qui se met, et oui, au drive. Et si j'ai bien compris, on va bien bouffer.
Et je vous annonce cet après-midi la fin de la carrière d'Olivier Pouls, ringardisé. Laurent Mariotte, finito, top chef, nul.
Là, je suis en train de dévouler de la pâte pour faire mes tourtes.
La patronne
La patronne, bonjour la patronne.
Bonjour.
Alors stop, prenez un stylo s'il vous plaît et notez le menu de Laurence. Interro les amis à la fin de la chronique.
Alors on fait des on fait de la salade vigneronne, c'est du wurstsalat avec du kas. Qu'est-ce qu'on fait encore? De la tarte au minster, c'est aussi l'Eierkühr mit minster kas drauf. Simplement l'Eierkühr sans minster aussi, on a minster kas. Heidelbeerkühr sagen wir. Alors dans la vallée de Münster, il y a Boiler. Nous on dit Heidelbeer. Monsieur Ascas, on va le faire un mois, wenn es fait. Au fait, pour l'instant, on n'a pas encore transformé.
Eh oui,
ok.
Mais vous êtes de quel côté de la frontière, là?
On est bien dans les Vosges. On est à la limite entre l'Alsace et la Lorraine, sur les crêtes vosgiennes. On n'a pas encore transformé, dit Laurence. Évidemment, vous avez compris, je ne vous précise pas. Bon, quand même, Monsieur Ascas, le fameux fromage blanc au kirsch, pas tout de suite. Les vaches ne sont pas encore là-haut sur les chaumes. Transhumance la semaine prochaine.
Alors, à ma connaissance, Arthur, mais je peux me tromper, les restaurants sont fermés. Il y a des clients là-haut sur les sommets vosgiens?
Les clients du tout nouveau Drive. Et oui, Drive pour les gens de la vallée qui montent en voiture pour récupérer des plats.
Génial.
Et Drive pour les randonneurs, une ferme auberge. C'est un concept vraiment typique ici dans le coin. C'est un lieu et deux métiers, éleveur, en général des vaches laitières vosgiennes, donc éleveur et restaurateur. Or, en temps normal, 90% de la production de la ferme est écoulée dans le resto. Il fallait rouvrir, dit le patron Serge.
Vous voyez là, vous avez maintenant un sachet qui est prêt. Voilà, ça c'est du castor fumé, hein, c'est de la viande de porc fumée. Et ça, vous connaissez, c'est des landjagers. Landjagers, hein, ou des gendarmes. Voilà, donc c'est aussi fait avec la viande de nos bovins. Vous avez des Fleischnack. Donc les Fleischnack, hein, c'est de la viande de pot-au-feu qui est assaisonnée, roulée dans une pâte à nouilles. Donc pour ça, Fleischnack, c'est en alsacien, Fleisch, c'est viande. Schnack, c'est escargot de viande. Donc quand on le regarde bien, on voit que c'est un escargot de viande. Regardez voir. C'est bon ça.
Franchement, Arthur, on rigole là. On rigole parce que les noms nous font rire, on ne les comprend pas. Mais en revanche, dès qu'on a l'explication derrière, moi, ça me donne super faim.
Ah, mais c'est délicieux. En plus, c'est une ambiance magnifique. Quand les restos sont ouverts, c'est absolument génial. Nous, on y va souvent. Nous, Strasbourgeois, Colmariens, Mulhousiens, etc. On monte souvent sur les sommets.
Et est-ce que ça marche ce drive alors, ce drive des sommets?
Ultra bien. Écoutez la patronne.
Ah, c'est impressionnant. Ouais, on ne s'attendait vraiment pas à ça, mais on se rend compte que les gens sont quand même très. Ils nous soutiennent, quoi. Et le téléphone n'arrête pas de sonner, donc maintenant on prend les commandes pour la semaine prochaine. Voilà, c'est génial, on les remercie du fond du cœur de nous soutenir comme ça, quoi.
Alors maintenant c'est l'heure de l'interro les amis. Facile pour commencer, qu'est-ce que c'est que des Fleischnack?
C'est une farce composée de viande cuite, d'œufs frais, d'oignons, de persil, de sel et de poivre, et c'est roulé dans une pâte à nouilles.
Ok, donc élimination directe des vaches qui regardent effectivement sur Wikipédia. Moi j'avais vu que Fleisch c'était la viande. C'était pas la viande, il disait le monsieur.
Oui, Fleisch c'est la viande et Schnack c'est l'escargot.
Ah,
donc un escargot à la viande, c'est roulé puis coupé en tranches avec un peu de bouillon. Et de la salade verte. Le siascas, vous avez
Ça, vous nous l'avez dit, ça. C'est le fromage blanc avec
quoi. Kirsch, avec le
fromage
kirsch.
Blanc au kirsch, avec de l'eau de vie de cerise.
Ça donne trop envie.
Et il y a des trucs où il n'y a pas de fromage, parce que là, vous n'arrêtez pas de mettre du fromage de partout, et moi, je suis allergique. Donc,
mais oui, parce qu'il y a les vaches du coin qui fournissent quand même la matière première. Mais non, il y a aussi le. Alors, ça, c'est vraiment dur à prononcer, les Rögelbrögeldi, un truc comme ça. Moi, je suis né en ville, donc je maîtrise malheureusement pas l'alsacien, même si je suis né à Strasbourg. Mais ça, c'est des pommes de terre revenues dans une marmite avec des tranches de porc, c'est ultra bon.
Quelle
ça sent
belle
bon.
Idée.
Oh là, ça a l'air trop bon.
Eh bien, merci Arthur Mbaché pour ce reportage. Avant de nous laisser, je crois que vous aviez un message codé à faire passer à votre maîtresse.
Pas de bruit en forêt, les bûcherons sont à la maison.
Europe 1. Elle restera dans l'histoire des jeux audiovisuels comme Raymond Poulidor dans l'histoire du cyclisme, sauf que dans le quiz, il n'y avait que deux concurrents. Ce qui fait qu'être deuxième n'était pas très glorieux. Voilà. Pourtant, l'épreuve du quiz manque terriblement à Eva, qui compense en plaçant des bourdes ailleurs dans l'émission. Ce qui est d'ailleurs parfois plus problématique, surtout quand une légende du cinéma français vient de s'éteindre.
Et un portrait magnifique qui s'appelle l'extravagant Monsieur Piccoli. Piccoli, mais c'est pas possible.
C'est dur, hein.
Oh là là.
Comme quoi, c'était mieux quand il y avait le quiz, Eva. Raison de plus pour s'en réécouter un petit morceau. A tout de suite.
Europe 1, l'équipé sauvage, 16h-18h.
Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Plus qu'une rediffusion du quiz, c'est la rediffusion d'un moment d'anthologie radiophonique qui nous attend maintenant, puisque mes malicieux réalisateurs Romain Causeur et Philippe Amardeil ont pris la peine de m'indiquer que le quiz que nous allons réécouter aujourd'hui est historique au sens où Eva, non contente de perdre, n'a pas réussi à inscrire le moindre point ce jour-là.
C'est pas étonnant.
Un naufrage total et pathétique digne de mon oral de flûte à bec du brevet. Ce qui n'est pas peu dire. On a hâte. Stéphane Rottenberg, oui. Pour le quiz du jour, le thème s'est imposé de lui-même. En hommage à Pékin Express, voici un vrai faux sur le thème de la Chine. Fascinante Chine, berceau d'une civilisation millénaire qui déjà à l'époque des... Bref, on a compris. Une bonne réponse, un point, c'est parti. Eva Rock, le Tongzidan est une brioche chinoise préparée avec du lait maternel humain. Vrai ou faux?
Je crois que vous ne le prononcez pas très très bien, d'ailleurs.
C'est possible, je m'en excuse.
Mais c'est vrai.
Eh bien, c'est faux. C'est une recette encore plus sympathique. Le Tongzidan, ce sont des œufs bouillis dans de l'urine de jeunes garçons vierges.
Oh,
selon la médecine chinoise, Eva, ce mets améliore la circulation sanguine. Bon appétit, bien sûr.
C'est une formidable médecine.
Oui,
ah, mais je vous promets.
Oui, mais formidable. Est-ce que vous avez tout goûté? Je ne suis pas sûr, Stéphane. Stéphane Rottenberg, voici trois inventions.
Oula.
Laquelle n'est pas chinoise? Le vernis à ongles, le football ou la fermeture éclair?
Ah, j'aurais dit les trois, moi, déjà. Donc,
moi, je me serais planté, là, de toute façon, clairement.
Bah, le réflexe, c'est le football, mais on va se méfier. Mmh. Fermeture éclair.
Bonne réponse. Alors, j'aime bien cet invité, parce que l'invité gagne toujours, je truque le résultat. Mais là, quand l'invité gagne vraiment, c'est encore mieux.
J'ai pas besoin de truquer. C'est ça, parce que...
La fermeture éclair est suisse. 1925, les plus vieilles traces de vernis à ongles ont été retrouvées sous la dynastie Ming en 3000 avant Jésus-Christ. Et la FIFA a reconnu officiellement en 2006 que le foot venait du Tsushu. C'est un jeu de balle au pied qui se pratiquait en 2500 avant Jésus-Christ. On pouvait d'ailleurs y jouer avec du vernis à ongles puisqu'il avait été inventé 500 ans avant. Vous suivez. Eva Rock, Stéphane Rottenberg, vous répondez tous les deux. Que peut-on trouver en France qui rend hommage à la Chine? Trois propositions. Une place Deng Xiaoping à Montargis, dans le Loiret. Une rue Jackie Chan. Une rue Jackie Chan à Deauville, en Normandie. Ou une impasse Confucius dans la ville d'Angoisse, en Dordogne.
Eh ben, moi, je prends Jackie Chan à Deauville.
Vous, vous prenez Jackie Chan. Très bien, ça fait pas... ça démontre votre grande faculté de déduction.
Confucius avec une impasse, ce serait tellement terrible.
Ah, ça serait...
Et Angoisse.
Confucius, une impasse à Angoisse, je ne sais pas.
Deng Xiaoping, c'est quand même incroyable. Kavi, Montargis.
Montargis.
Oh, là aussi, c'est quand même... Parce que Deng Xiaoping, pourquoi pas, avec... Bon, non... Jackie Chan sera que du festival film américain, mais pas une rue quand même. Allez, la troisième. Mais ça n'a aucun sens.
Alors donc, c'est votre réponse à la troisième?
L'impasse, mais j'oserais pas si j'étais maire.
Mais vous auriez osé une place Deng Xiaoping?
Oui,
dans... Et oui, c'est la bonne réponse. Oui, quel génie, ce Stéphane Rottenberg, il a réponse à tout. La place Deng Xiaoping à Montargis. Et oui, c'est un rond-point qui rend hommage à celui qui a été numéro 1 de la République populaire de Chine de 78 à 92. Il avait notamment...
Enrichissez-vous.
Enrichissez-vous.
C'est lui qui a dit ça.
Ça, c'est un de ses slogans.
Tout a basculé. C'est lui qui a fait que la Chine est devenue riche, opulente.
Et capitaliste, sans le dire.
Voilà.
Et il a aussi dit, ça c'est pas mal aussi, lorsqu'on ouvre la fenêtre pour changer d'air, l'air frais pénètre, ainsi que les mouches. Et ça, c'est très profond comme réflexion. Stéphane Rottenberg, en Chine, Nong Yui laisse les scientifiques perplexes. C'est un petit garçon nyctalope, à savoir qu'il peut voir dans la nuit, vrai ou faux?
Oh, ça me paraît tellement dingue que j'ai envie de dire oui.
C'est vrai. Il est atteint d'une maladie appelée leucodermia. Ah, ses yeux sont d'un bleu très clair et il voit la nuit. C'est le seul être humain au monde répertorié ayant cette capacité. Résultat, il est entré dans le livre des records, livre qu'il peut lire la nuit, du coup. Et Baroque, dernière question,
oui,
Eva, si vous pouvez marquer un
petit
point.
Perdu,
dans les films chinois, il est interdit de montrer des scènes où l'on fait l'amour à plusieurs, vrai ou faux?
Ah, j'étais en train de me passer toute la filmographie des films chinois que j'avais pu voir. C'est possible que ça soit vrai.
C'est très possible, hein.
Ouais.
Mais sauf que c'est faux.
Ah ouais.
Par contre, les films avec des voyages dans le temps sont interdits. Retour vers le futur n'a jamais été diffusé en Chine. L'interdiction date de 2011.
Et ma réponse était idiote parce que dans l'Empire des Sens, par exemple, ils sont à plusieurs.
Oui, mais ne soulignez pas trop ceci. Effectivement, puisque là, je crois que vous avez fait chou blanc.
Oui, complètement.
Et c'est évidemment Stéphane Rottenberg qui remporte notre quiz. Alors, en Russie, on l'a dit, la vodka coule souvent à flot. Est-ce qu'il est déjà arrivé, Stéphane, au cours de ces saisons, que des candidats manquent à l'appel suite à une nuit un peu trop agitée et festive avec des locaux?
Non, en revanche, ce qui a pu arriver, alors encore une fois, on ne sait pas, hein, mais c'est que, vous savez, le caméraman s'en va lorsque les candidats vont se coucher.
Et il les retrouve au petit déjeuner. Et il a senti qu'il y a une ambiance différente. Il s'est passé un truc.
Des rapprochements.
Mais quoi ? Alors, le au revoir, on filme le au revoir, c'est normal. Et parfois, on a senti, parfois même les téléspectateurs se sont rendus compte, des au revoir plus chaleureux que ce qu'on pouvait s'imaginer au départ. Et donc voilà, mais ça...
Je sens que vous avez envie de retourner sur mes propres candidates.
On ne filme pas passer 21 heures.
Est-ce que vous, personnellement, parfois, on imagine que c'est compliqué un tournage comme ça, vous avez dit le nombre de gens qui sont mobilisés. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, cette saison, c'est sûr, c'est la dernière, c'est trop galère, trop compliqué à gérer
Les trois quarts du temps.
Allez, ah oui, il y a toujours quand même des grosses galères.
Oui, parce que, en fait, il y a une telle... Et à la fois, c'est galvanisant, puis effectivement, il y a des vraies tensions. Et puis, régulièrement, quand on rentre, déjà, on est toujours content de rentrer. Et en fait, c'est un petit peu comme les... Pardon, la comparaison est un peu flatteuse, mais comme les marins au long cours, ils sont toujours... Ils ont hâte de... On se demande qu'est-ce qu'ils foutent, qu'ils n'arrêtent pas de parler du retour à la maison. Ils sont tout le temps en mer, j'ai hâte de rentrer, qu'est-ce qu'ils foutent en mer à traverser, etc. Et puis, lorsqu'ils sont à terre, ils passent leur temps à penser à repartir. Ouais. Et ben, nous, c'est pareil.
Europe 1.
Mon loulou, mon bébé chou, mon ange à moi, mon prince, mon choupi. Vous aviez tout un panel d'appellations pour parler de votre enfant. Enfin, ça, c'était assez avant confinement. Aujourd'hui...
C'est un bâtard, Fabienne, un bâtard. Oui, c'est vrai que, diable, appelons les choses par leur nom.
Vos enfants n'ont toujours pas repris le chemin de l'école et vous êtes un peu tendax. Collez-les devant un écran grâce à la sélection d'Eva Rock. C'est juste après Angèle, tu me regardes sur Europe 1.
C'est vrai, juste dans ma tête, ou toi aussi, c'est dans la tienne. Mais chaque fois que je suis seule, je pense à toi, je sais c'est belle. J'y ai pensé en boucle, je te veux. Je me le cachais sans doute, je te veux. Quand j'ai besoin d'aide, je te vois. Au moins c'est peut-être ce qui m'échappe. J'aimerais pouvoir t'aimer sans mal. J'aimerais peut-être juste que tu me regardes comme tu me regardais hier, sans qu'il nous regarde, quand il nous regarde au travers. Que tu me regardes comme tu me regardais hier, sans qu'il nous regarde, quand il nous regarde au travers. J'y ai pensé parfois, je voulais pas le voir, je l'avais chanté déjà mais sans trop le savoir. Les échecs me font peur, je jouais avec le roi, la reine a pris mon cœur. J'y ai pensé en boucle, tu me plais. Je vais te le cacher sans doute, tu me plais. Quand j'ai besoin d'aide, je te vois. Au moins c'est peut-être ce qui m'échappe. J'aimerais pouvoir t'aimer sans mal. Ou j'aimerais peut-être juste que tu me regardes. D'être seule, j'ai peur d'être à deux. J'ai peur de te regarder et encore plus dans les yeux. Et cela je les évite, ce regard qui m'invite. Même si au fond de moi j'hésite, je brûle d'envie que tu me regardes.
Me regarde, c'est le nouveau Angèle sur Europe 1. L'équipe est sauvage revient dans une minute.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
La vie reprend peu à peu. Parents d'ados n'ayant pu reprendre le collège, il vous arrive quand même désormais de réussir à vous débarrasser d'eux quelques heures dans la journée, quand vous les emmenez par exemple déjeuner chez des copains. Mais même là, ils continuent de vous courir sur le haricot, car votre ado trouve évidemment votre conduite un peu rouillée.
Moi je pense qu'au-dessus d'un certain âge, on devrait quand même repasser son permis.
Ah, je pense qu'au-dessous d'un certain âge, on devrait un peu fermer sa gueule.
Le mieux pour faire taire un ado, c'est de l'hypnotiser avec un beau vieil écran. Et il en oubliera d'être insolent, bah,
c'est
pas vrai,
bah. Ouais, c'est vrai. Mais enfin, on va commencer avec les tout-petits aujourd'hui. Oh, c'est un programme pour eux, oui. On va imaginer que vous ayez que vous soyez un peu à court d'histoire pour vos enfants, que vous en ayez même un peu marre de leur raconter des histoires. Eh bien, vous pouvez vous brancher sur France.tv pour découvrir Yetili. Alors, on est dans une librairie. C'est une vraie librairie. C'est un vrai décor de librairie. Et dedans, il y a un Yetili qui est un immense Yeti au poil blanc, qui est la star de ce programme. C'est une sorte de Casimir 2020.
Oh, énorme peluche. Qu'est-ce qu'il est devenu, Casimir ? Il faudrait lancer une requête.
Il va très bien.
Comment ça, il va très bien ?
Mais oui, parce que je sais qui est dans... Mais oui, non, mais c'est Yves Brunier. Mais on l'embrasse.
Alors, attendez,
d'ailleurs.
Vous connaissez Casimir personnellement ?
Mais clairement, j'ai déjà fait des soirées avec lui.
Vous avez fait des soirées avec Casimir ?
Ouais, c'était formidable. Non, mais en plus, je déconne pas, c'est vrai. Ouais. Yves Brunier, qu'on embrasse, hein, qui est dans Monsieur
mais,
Casimir.
Pardonnez-moi,
en fait.
Mais il a quel âge, Casimir ?
Le personnage ou le monsieur qui est à l'intérieur ?
Le monsieur qui est à l'intérieur.
Je sais, j'ose pas trop dire.
J'ose pas trop dire, mais disons que voilà.
Ah bah c'est... oui, il est plus vieux que moi, oui, bah, c'est
exactement,
ça.
Exactement.
Oui, on est d'accord.
D'accord, il faut qu'il fasse attention avec le Covid. Remarquez, il est protégé.
Bah, oui.
Il est protégé.
C'est ça.
Il a le masque depuis longtemps.
Bon, bah Yeti aussi, il est protégé. Hein, voilà. Alors lui, c'est pareil, c'est une énorme peluche qui va prendre vie quand la librairie ferme ses portes au public et il va se transformer en formidable conteur pour Léon et Nina, ces deux petites souris qui sont trop mignonnes et qui l'accompagnent à chaque fois. Donc les petites souris, elles s'installent près de Yetili et l'histoire peut commencer, celle par exemple de Minute Papillon.
La voici qui goûte à une aubergine.
Berk, les aubergines Berk. Je sais plus c'est quoi, mais Berk comme Nina.
Vous ne savez pas ce qui est bon. Caviar d'aubergine, aubergine poêlée aux tomates, aubergine en gelée.
Oh, c'est vrai que ça a l'air bon.
Et oh, Yetili, la suite de l'histoire, s'il te plaît.
Alors Yetili, il aime tous les livres destinés aux 3-6 ans, les classiques, les nouveaux albums. Et vous l'avez entendu, comme avec vos enfants, eh bien les petites souris, elles interviennent à chaque fois pour lui demander un petit détail sur l'histoire. Le programme est d'une durée de 7 minutes. C'est vraiment le temps d'une histoire extrêmement bien racontée par cette sympathique créature et qui est réalisée de façon à ce que les dessins de chaque page du bouquin, évidemment, apparaissent à l'écran. C'est malin, poétique, intelligent. Et puis c'est surtout une invitation à la lecture et c'est à voir sur France.tv.
C'est vrai. Mais le problème de Yetili, c'est que c'est beaucoup trop court.
Et oui,
on n'a pas
7
la paix
minutes.
Très longtemps.
Voilà.
Est-ce que vous n'avez pas plus long comme format?
Oui, bien sûr. Et on remercie d'ailleurs TMC de programmer ce soir à 21h15 un film d'animation de 115 minutes.
Oh, 115
oui,
minutes,
ça c'est très
bon,
très bien.
Ça,
voilà, un
ça
long
laisse
métrage.
Le temps de faire deux, trois choses.
Exactement.
Avec trois choses, voilà.
Un long métrage dans lequel on peut entendre notamment cette chanson revue et corrigée.
Regarde ce que je peux faire sans auto-tune.
Tu dis quoi? Oh non, il l'a fait!
Si t'essaies de me mettre à terre, j'en sortirai vainqueur. Si t'essaies de me faire taire, je mettrai mon haut-parleur. Si tu me
vends. Alors, nouvelle version de I'll We Survive, reprise par un vieux cacaotès qui se prénomme Hector.
C'est pas cacatoès. Un cacaotès.
Parce
qu'un cacaotès,
c'est
encore un autre animal. On pourrait peut-être, si Farah est toujours avec nous, nous expliquer ce que c'est. Mais...
Un cacatoès qui est nommé Hector. Bienvenue dans le monde très drôle et coloré de Rio, mais deuxième chapitre, Rio 2. Vous allez retrouver notre hara domestique Blue, qui est bien décidé à partir avec sa famille dans la jungle à la recherche de leurs racines, et puis qui va donc retomber sur son ennemi juré, Hector, qui chante très bien d'ailleurs. C'est un périple qui est rythmé par une multitude de jeux de mots hilarants, et puis l'arrivée de personnages désopilants comme la grenouille, chanteuse d'opéra, Gabi, dont la voix est assurée par une immense artiste qu'on a reçue dans l'équipée sauvage, Nathalie Dessay. Et au rang des voix connues, un autre invité de l'équipée sauvage, on retrouve Laurent Dutch dans celle de Blue, le héros. Voilà, je suis certaine que vous allez passer un bon moment. Et franchement, les grands, je vous le dis, restez devant votre écran. Partagez ce moment avec vos enfants, sinon vous avez donc 115 minutes de paix. Ce qui est pas mal.
Merci Eva et nos amitiés à Casimir.
Europe 1.
Une première page va se tourner dans l'équipée sauvage, la grande battle des journalistes. Deux nouveaux champions vont nous rejoindre pour un duel à la carte de presse. On va parler musique, abeilles, Star Wars et papillons de nuit dans un ordre qui n'est pas encore très clair, même pour moi. Une chose est sûre, contrairement à hier, toutes les chroniques que vous entendrez seront des exclusivités pour notre émission. Car oui, hier, Axel de Tarlé s'est fait prendre les doigts dans le pot de confiture.
Là, je suis un peu embêté parce que cette phrase, quand on va chez Ikea, on achète à l'IKEA, je voulais m'en servir dans ma propre démonstration.
Et surtout, on commence par une révélation qui est que vous recyclez votre édito que vous avez déjà fait dans la matinale.
Tout le monde se met à l'écologie, on recycle.
Et ben, c'est du propre.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.